La grande Nanon était peut-être la seule créature humaine capable d'accepter le despotisme de son maître. Toute la ville l'enviait à monsieur et à madame Grandet. La grande Nanon, ainsi nommée à cause de sa taille haute de 5 pieds 8 pouces, appartenait à Grandet depuis 35 ans. Quoiqu'elle n'eût que 60 livres de gage, elle passait pour une des plus riches servantes de Saumur. Ses 60 livres, accumulés depuis 35 ans, lui avaient permis de placer récemment 4000 livres en viager chez maître Cruchot. Ce résultat des longues et persistantes économies de la grande Nanon parut gigantesque. Chaque servante, voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux jours, était jalouse d'elle sans penser au dur servage par lequel il avait été acquis. À l'âge de 22 ans, la pauvre fille n'avait pu se placer chez personne, tant sa figure semblait repoussante. Et certes, ce sentiment était bien injuste. Sa figure eût été fort admirée sur les épaules d'un grenadier de la garde. Mais en tout, il faut, dit-on, la propos. Forcée de quitter une ferme incendiée où elle gardait les vaches, elle vint à Saumur où elle chercha du service, animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père Grandet pensait alors à se marier et voulait déjà monter son ménage. Il avisa cette fille, rebutée de porte en porte. Juge de la force corporelle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti qu'on pouvait tirer d'une créature femelle taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de 60 ans sur ses racines, forte des hanches, carrée du dos, ayant des mains de charretier et une probité vigoureuse comme l'était son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la Nanon n'épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages et l'employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi accueillie, la grande Nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier, qui d'ailleurs l'exploita féodalement. Nanon faisait tout. Elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la Loire, le rapporter sur ses épaules. Elle se levait au jour, se couchait tard, faisait à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halboteurs, défendait, comme un chien fidèle, le bien de son maître. Enfin, pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse année de 1811, dont la récolte coûta des peines inouïes, après 20 ans de service, Grandet résolut de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent qu'elle reçut jamais de lui. Quoiqu'il lui abandonnât ses vieux souliers, elle pouvait les mettre. Il est impossible de considérer le profit trimestriel des souliers de Grandet comme un cadeau, tant ils étaient usés. La nécessité rendit cette pauvre fille si avare que Grandet avait fini par l'aimer comme on aime un chien. Et Nanon s'était laissé mettre au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient plus. Si Grandet coupait le pain avec un peu trop de parcimonie, elle ne s'en plaignait pas. Elle participait gaiement au profit hygiénique que procurait le régime sévère de la maison où jamais personne n'était malade. Puis la Nanon faisait partie de la famille. Elle riait quand riait Grandet, s'attristait, gelait, se chauffait, travaillait avec lui. Combien de douces compensations dans cette égalité! Jamais le maître n'avait reproché à la servante ni l'alberge ou la pêche de vigne, ni les prunes ou les brugnons mangés sous l'arbre. « Allons, régale-toi, Nanon !» lui disait-il, dans les années où les branches pliaient sous les fruits que les fermiers étaient obligés de donner aux cochons. Pour une fille des champs, qui dans sa jeunesse n'avait récolté que de mauvais traitements, pour une pauvresse recueillie par charité, le rire équivoque du père Grandet était un vrai rayon de soleil. D'ailleurs, le cœur simple, la tête étroite de Nanon ne pouvait contenir qu'un sentiment et une idée. Depuis 35 ans, elle se voyait toujours arrivant devant le chantier du père Grandet, pieds nus, en haillons, et entendait toujours le tonnelier lui disant « Que voulez-vous, ma mignonne ?» Et sa reconnaissance était toujours jeune. Quelquefois, Grandet, songeant que cette pauvre créature n'avait jamais entendu le moindre mot flatteur, qu'elle ignorait tous les sentiments doux que la femme inspire, et pouvait comparaître un jour devant Dieu plus chaste que ne l'était la Vierge Marie elle-même, Grandet, saisi de pitié, disait en la regardant « Cette pauvre Nanon !» Son exclamation était toujours suivie d'un regard indéfinissable que lui jetait la vieille servante. Ce mot, dit de temps à autre, formait depuis longtemps une chaîne d'amitié non interrompue et à laquelle chaque exclamation ajoutait un chaînon. Cette pitié, placée au cœur de Grandet et prise tout en gré par sa vieille fille, avait je ne sais quoi d'horrible. Cette atroce pitié d'avare, qui réveillait mille plaisirs au cœur du vieux tonnelier, était pour Nanon sa somme de bonheur. Qui ne dira pas aussi « Pauvre Nanon, Dieu reconnaîtra ses anges aux inflexions de leur voix et à leurs mystérieux regrets. » Il y avait dans Saumur une grande quantité de ménages où les domestiques étaient mieux traités, mais où les maîtres n'en recevaient néanmoins aucun contentement. De là cette autre phrase. Qu'est-ce que les Grandets font donc à leur grande Nanon pour qu'elle leur soit si attachée? Elle passerait dans le feu pour eux. Sa cuisine, dont les fenêtres grillées donnaient sur la cour, était toujours propre, nette, froide, véritable cuisine d'avare où rien ne devait se perdre. Quand Nanon avait lavé sa vaisselle, serré les restes du dîner, éteint son feu, elle quittait sa cuisine, séparée de la salle par un couloir, et venait filer du chanvre auprès de ses maîtres. Une seule chandelle suffisait à la famille pour la soirée. La servante couchait au fond de ce couloir, dans un bouge éclairé par un jour de souffrance. Sa robuste santé lui permettait d'habiter impunément cette espèce de trou, d'où elle pouvait entendre le moindre bruit par le silence profond qui régnait nuit et jour dans la maison. Elle devait, comme un dogue chargé de la police, ne dormir que d'une oreille et se reposer en veillant. La description des autres portions du logis se trouvera liée aux événements de cette histoire. Mais d'ailleurs, le croquis de la salle où éclatait tout le luxe du ménage peut faire soupçonner par avance la nudité des étages supérieurs. En 1819, vers le commencement de la soirée, au milieu du mois de septembre, la grande Nanon alluma du feu pour la première fois. L'automne avait été très beau. Ce jour était un jour de fête bien connu des Cruchotins et des Grassinistes. Aussi, les six antagonistes se préparaient-ils à venir, armés de toutes pièces, pour se rencontrer dans la salle et s'y surpasser en preuve d'amitié. Le matin, tous au mur avaient vu Madame et Mademoiselle Grandet, accompagnées de Nanon, se rendant à l'église paroissiale pour y entendre la messe. Et chacun se souvint que ce jour était l'anniversaire de la naissance de Mademoiselle Eugénie. Aussi, calculant l'heure où le dîner devait finir, Maître Cruchot, l'abbé Cruchot et Monsieur C. de Bonfond s'empressaient-ils d'arriver avec les Desgrassins pour fêter Mademoiselle Grandet. Tous trois apportaient d'énormes bouquets cueillis dans leur petite serre. La queue des fleurs que le président voulait présenter était ingénieusement enveloppée d'un ruban de satin blanc, orné de franges d'or. Le matin, M. Grandet, suivant sa coutume pour les jours mémorables de la naissance et de la fête d'Eugénie, était venu la surprendre au lit et lui avait solennellement offert son présent paternel, consistant, depuis 13 années, en une curieuse pièce d'or. Madame Grandet donnait ordinairement à sa fille une robe d'hiver ou d'été, selon la circonstance. Ces deux robes, les pièces d'or qu'elle récoltait au premier jour de l'an et à la fête de son père, lui composaient un petit revenu de 100 écus environ, que Grandet aimait à lui voir entasser. N'était-ce pas mettre son argent d'une caisse dans une autre, et, pour ainsi dire, élever à la brochette l'avarice de son héritière, à laquelle il demandait parfois compte de son trésor, autrefois grossi par les La Bertellière, en lui disant « Ce sera ton douzain de mariage ». Le douzain est un antique usage encore en vigueur et saintement conservé dans quelques pays situés au centre de la France. En Berry, en Anjou, quand une jeune fille se marie, sa famille, ou celle de l'époux, doit lui donner une bourse où se trouvent, suivant les fortunes, 12 pièces ou 12 douzaines de pièces ou 1200 pièces d'argent ou d'or. La plus pauvre des bergères ne se marierait pas sans son douzain, ne fût-il composé que de gros sous. On parle encore à Issoudun de je ne sais quel douzain offert à une riche héritière et qui contenait 144 portugaises d'or. Le pape Clément VII, oncle de Catherine de Médicis, lui fit présent, en la mariant à Henri II, d'une douzaine de médailles d'or antiques de la plus grande valeur. Pendant le dîner, le père, tout joyeux de voir son Eugénie plus belle dans une robe neuve, s'était écrié « Puisque c'est la fête d'Eugénie, faisons du feu, ce sera de bon augure !»« Mademoiselle se mariera dans l'année, c'est sûr !» dit la grande Nanon en remportant les restes du noix, se faisant des tonneliers. « Je ne vois point de parti pour elle à Saumur, » répondit Madame Grandet, en regardant son mari d'un air timide, qui, vu son âge, annonçait l'entière servitude conjugale sous laquelle gémissait la pauvre femme. Grandet contempla sa fille et s'écria gaiement « Elle a 23 ans aujourd'hui, l'enfant. Il faudra bientôt s'occuper d'elle. » Eugénie et sa mère se jetèrent silencieusement un coup d'œil d'intelligence. Madame Grandet était une femme sèche et maigre, jaune comme un coin, gauche, lente, une de ces femmes qui semblent faites pour être tyrannisées. Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux, et offrait, au premier aspect, une vague ressemblance avec ces fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni suc. Ses dents étaient noires et rares, sa bouche était ridée, et son menton affectait la forme dite en galoche. C'était une excellente femme, une vraie La Bertellière. L'abbé Cruchot avait trouvé quelques occasions de lui dire qu'elle n'avait pas été trop mal, et elle le croyait. Une douceur angélique, une résignation d'insectes tourmentés par des enfants, une piété rare, une inaltérable égalité d'âme, un bon cœur, la faisaient universellement plaindre et respecter. Son mari ne lui donnait jamais plus de 6 francs à la fois pour ses menues dépenses. Quoique ridicule en apparence, cette femme qui, par sa dot et ses successions, avait apporté au père Grandet plus de 300 000 francs, s'était toujours sentie si profondément humiliée d'une dépendance et d'un ilotisme contre lequel la douceur de son âme lui interdisait de se révolter, qu'elle n'avait jamais demandé un sou, ni fait une observation sur les actes que maître Cruchot lui présentait à signer. Cette fierté sotte et secrète, cette noblesse d'âme constamment méconnue et blessée par Grandet, dominait la conduite de cette femme. Madame Grandet mettait constamment une robe de levantine verdâtre qu'elle s'était accoutumée à faire durer près d'une année. Elle portait un grand fichu de cotonnade blanche, un chapeau de paille cousu et gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Sortant peu du logis, elle usait peu de souliers. Enfin, elle ne voulait jamais rien pour elle. Aussi, Grandet, saisi parfois d'un remords en se rappelant le long temps écoulé depuis le jour où il avait donné 6 francs à sa femme, stipulait-il toujours des épingles pour elle en vendant ses récoltes de l'année. Les 4 ou 5 louis offerts par le Hollandais ou le Belge acquéreur de la vendange Grandet formaient le plus clair des revenus annuels de Madame Grandet. Mais, quand elle avait reçu ses 5 louis, son mari lui disait souvent, comme si leur bourse était commune, « As-tu quelques sous à me prêter ?» Et la pauvre femme, heureuse de pouvoir faire quelque chose pour un homme que son confesseur lui représentait comme son seigneur et maître, lui rendait, dans le courant de l'hiver, quelques écus sur l'argent des épingles. Lorsque Grandet tirait de sa poche la pièce de 100 sous allouée par mois pour les menues dépenses, le fil, les aiguilles et la toilette de sa fille, il ne manquait jamais, après avoir boutonné son gousset, de dire à sa femme « Et toi, la mère, veux-tu quelque chose ?»« Mon ami, répondait Madame Grandet, animée par un sentiment de dignité maternelle, nous verrons cela. » Sublimité perdue. Grandet se croyait très généreux envers sa femme. Les philosophes qui rencontrent des Nanon, des Madame Grandet, des Eugénie, ne sont-ils pas en droit de trouver que l'ironie est le fond du caractère de la Providence ? Après ce dîner, où pour la première fois il fut question du mariage d'Eugénie, Nanon alla chercher une bouteille de cassis dans la chambre de Monsieur Grandet et manqua de tomber en descendant. « Grande bête !» lui dit son maître. « Est-ce que tu te laisserais choir comme une autre, toi ?»« Monsieur, c'est cette marche de votre escalier qui ne tient pas. » « Elle a raison, dit Madame Grandet. Vous auriez dû la faire raccommoder depuis longtemps. Hier, Eugénie a failli s'y fouler le pied. » « Tiens, dit Grandet à Nanon en la voyant toute pâle, puisque c'est la naissance d'Eugénie et que tu as manqué de tomber, prends un petit verre de cassis pour te remettre. » « Ma foi, je l'ai bien gagné, dit Nanon. À ma place, il y a bien des gens qui auraient cassé la bouteille, mais je me serais plutôt cassé le cou pour la tenir en l'air. » « Cette pauvre Nanon !» dit Grandet en lui versant le cassis. « T'es-tu fait mal ?» lui dit Eugénie en la regardant avec intérêt. « Non, puisque je me suis retenue en me fichant sur mes reins. » « Eh bien, puisque c'est la naissance de Génie, dit Grandet, je vais raccommoder votre marche. Vous ne savez pas, vous autres, mettre le pied dans le coin, à l'endroit où elle est encore solide. » Grandet prit la chandelle, laissa sa femme, sa fille et sa servante sans autre lumière que celle du foyer qui jetait de vives flammes, et alla dans le fournil chercher des planches, des clous et ses outils. « Faut-il vous aider ?» lui cria Nanon en l'entendant frapper dans l'escalier. « Non, non, ça me connaît !» répondit l'ancien tonnelier. Au moment où Grandet raccommodait lui-même son escalier vermoulu et sifflait à tue-tête en souvenir de ses jeunes années, les trois Cruchot frappèrent à la porte. « C'est-y vous, monsieur Cruchot ?» demanda Nanon en regardant par la petite grille. « Oui, répondit le président. » Nanon ouvrit la porte et la lueur du foyer, qui se reflétait sur la voûte, permit aux trois Cruchot d'apercevoir l'entrée de la salle. « Ah, vous êtes des fêteux !» leur dit Nanon en sentant les fleurs. « Excusez, messieurs !» cria Grandet en reconnaissant la voix de ses amis. « Je suis à vous. Je ne suis pas fier. Je rafistole moi-même une marche de mon escalier. »« Faites, faites, monsieur Grandet. Charbonnier est maître chez lui. » dit sentencieusement le président en riant tout seul de son allusion que personne ne comprit. Madame et Mademoiselle Grandet se levèrent. Le président, profitant de l'obscurité, dit alors à Eugénie « Me permettez-vous, mademoiselle, de vous souhaiter, aujourd'hui que vous venez de naître, une suite d'années heureuses et la continuation de la santé dont vous jouissez ?» Il offrit un gros bouquet de fleurs rares à Saumur. Puis, serrant l'héritière par les coudes, il l'embrassa des deux côtés du cou, avec une complaisance qui rendit Eugénie honteuse. Le président, qui ressemblait à un grand clou rouillé, croyait ainsi faire sa cour. « Ne vous gênez pas !» dit Grandet en rentrant. « Comme vous y allez les jours de fête, monsieur le président !»« Mais avec mademoiselle, » répondit l'abbé Cruchot armé de son bouquet, « tous les jours seraient pour mon neveu des jours de fête. » L'abbé baisa la main d'Eugénie. Quant à maître Cruchot, il embrassa la jeune fille tout bonnement sur les deux joues et dit « Comme ça nous pousse, ça ! Tous les ans, 12 mois !» En replaçant la lumière devant le cartel, Grandet, qui ne quittait jamais une plaisanterie et la répétait à satiété quand elle lui semblait drôle, dit « Puisque c'est la fête d'Eugénie, allumons les flambeaux !» Il ôta soigneusement les branches des candélabres, mit la bobèche à chaque piédestal, prit des mains de Nanon une chandelle neuve entortillée d'un bout de papier, la ficha dans le trou, l'assura, l'alluma et vint s'asseoir à côté de sa femme, en regardant alternativement ses amis, sa fille et les deux chandelles. L'abbé Cruchot, petit homme dodu, grassouillé, à perruque rousse et plate, à figure de vieille femme joueuse, dit en avançant ses pieds bien chaussés dans de forts souliers à agrafes d'argent. « Les des Grassins ne sont pas venus ?»« Pas encore, » dit Grandet. « Mais doivent-ils venir ?» demanda le vieux notaire en faisant grimacer sa face trouée comme une écumoire. « Je le crois, » répondit Madame Grandet. « Vos vendanges sont-elles finies ?» demanda le président de Bonfons à Grandet. « Partout !» lui dit le vieux vigneron, en se levant pour se promener de long en large dans la salle et se haussant le thorax par un mouvement plein d'orgueil, comme son mot, partout. Par la porte du couloir qui allait à la cuisine, il vit alors la grande Nanon, assise à son feu, ayant une lumière et se préparant à filer là, pour ne pas se mêler à la fête. « Nanon, dit-il en s'avançant dans le couloir, veux-tu bien éteindre ton feu, ta lumière, et venir avec nous ?» « Pardieu, la salle est assez grande pour nous tous. »« Mais, monsieur, vous aurez du monde. »« Ne les vaux-tu pas bien ? Ils sont de la côte d'Adam, tout comme toi. » Grandet revint vers le président et lui dit « Avez-vous vendu votre récolte ?»« Non, ma foi, je la garde. Si maintenant le vin est bon, dans 2 ans il sera meilleur. »« Les propriétaires, vous le savez bien, se sont jurés de tenir les prix convenus. »« Et cette année... » Les Belges ne l'emporteront pas sur nous. S'ils s'en vont, eh bien, ils reviendront. Oui, mais tenons-nous bien, dit Grandet d'un ton qui fit frémir le président. Serait-il en marché ? Pensa Cruchot. En ce moment, un coup de marteau annonça la famille des Grassins, et leur arrivée interrompit une conversation commencée entre Madame Grandet et l'abbé. Madame des Grassins était une de ces petites femmes vives, dodues, blanches et roses, qui, grâce au régime claustral des provinces et aux habitudes d'une vie vertueuse, se sont conservées jeunes encore à 40 ans. Elles sont comme ces dernières roses de l'arrière-saison, dont les pétales ont je ne sais quelle froideur et dont le parfum s'affaiblit. Elles se mettaient assez bien, faisaient venir ces modes de Paris, donnaient le ton à la ville de Saumur. Et avait des soirées. Son mari, ancien quartier-maître dans la garde impériale, grièvement blessé à Austerlitz et retraité, conservait, malgré sa considération pour Grandet, l'apparente franchise des militaires. « Bonjour, Grandet, » dit-il au vigneron en lui tendant la main et affectant une sorte de supériorité sous laquelle il écrasait toujours les cruchots. « Mademoiselle, » dit-il à Eugénie après avoir salué Madame Grandet. « Vous êtes toujours belle et sage, et je ne sais en vérité ce que l'on peut vous souhaiter. » Puis il présenta une petite caisse que son domestique portait et qui contenait une bruyère du Cap, fleur nouvellement apportée en Europe et fort rare. Madame des Grassins embrassa très affectueusement Eugénie, lui serra la main et lui dit « Adolphe s'est chargé de vous présenter mon petit souvenir. » Un grand jeune homme blond, pâle et frêle, ayant d'assez bonnes façons, timide en apparence, mais qui venait de dépenser à Paris, où il était allé faire son droit, 8 ou 10 000 francs en sus de sa pension, s'avança vers Eugénie, l'embrassa sur les 2 joues et lui offrit une boîte à ouvrage dont tous les ustensiles étaient en vermeil. Véritable marchandise de pacotille, malgré l'écusson sur lequel un E.G. gothique, assez bien gravé, pouvait faire croire à une façon très soignée. En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces joies inespérées et complètes qui font rougir, tressaillir, trembler d'aise les jeunes filles. Elle tourna les yeux sur son père comme pour savoir s'il lui était permis d'accepter. Et M. Grandet dit un « « Prends, ma fille !» dont l'accent eût illustré un acteur. Les 3 cruchots restèrent stupéfaits en voyant le regard joyeux et animé lancé sur Adolphe des Grassins par l'héritière, à qui de semblables richesses parurent inouïes. Monsieur des Grassins offrit à Grandet une prise de tabac, en saisit une, secoua les grains tombés sur le ruban de la Légion d'honneur attaché à la boutonnière de son habit bleu. Puis il regarda les cruchots d'un air qui semblait dire « Parez-moi cette botte-là » Madame des Grassins jeta les yeux sur les bocaux bleus où étaient les bouquets des cruchots, en cherchant leur cadeau avec la bonne foi jouée d'une femme moqueuse. Dans cette conjoncture délicate, l'abbé Cruchot laissa la société s'asseoir en cercle devant le feu et alla se promener au fond de la salle avec Grandet. Quand les deux vieillards furent dans l'embrasure de la fenêtre la plus éloignée des Grassins, « Ces gens-là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent l'argent par les fenêtres. « Qu'est-ce que cela fait s'ils rentrent dans ma cave ? » répliqua le vigneron. « Si vous vouliez donner des ciseaux d'or à votre fille, vous en auriez bien le moyen, » dit l'abbé. « Je lui donne mieux que des ciseaux, » répondit Grandet. « Mon neveu est une cruche, » pensa l'abbé en regardant le président, dont les cheveux ébouriffés ajoutaient encore à la mauvaise grâce de sa physionomie brune. « Ne pouvait-il inventer une petite bêtise qui eût du prix ?»« Nous allons faire votre partie, Madame Grandet, » dit Madame des Grassins. Mais nous sommes tous réunis, nous pouvons deux tables. Puisque c'est la fête de génie, faites votre loto général, dit le père Grandet. Ces deux enfants en seront. L'ancien tonnelier, qui ne jouait jamais à aucun jeu, montra sa fille et Adolphe. Allons, Nanon, mets les tables. Nous allons vous aider, mademoiselle Nanou, dit gaiement Madame des Grassins, toute joyeuse de la joie qu'elle avait causée à Eugénie. « Je n'ai jamais de ma vie été si contente, » lui dit l'héritière. « Je n'ai rien vu de si joli nulle part. » C'est Adolphe qui l'a rapporté de Paris et qui l'a choisi, » lui dit Madame des Grassins à l'oreille. « Va, va ton train, damnée intrigante, » se disait le président. « Si tu es jamais en procès, toi ou ton mari, votre affaire ne sera jamais bonne. » Le notaire, assis dans son coin, regardait l'abbé d'un air calme en se disant « Les des Grassins ont beau faire, ma fortune, celle de mon frère et celle de mon neveu, montent en somme à 1 100 000 francs. Les des Grassins en ont tout au plus la moitié et ils ont une fille. Ils peuvent offrir ce qu'ils voudront. Héritière et cadeau, tout sera pour nous un jour. » À 8h30 du soir, deux tables étaient dressées. La jolie Madame des Grassins avait réussi à mettre son fils à côté de Génie. Les acteurs de cette scène pleine d'intérêt, quoique vulgaire en apparence, munis de cartons bariolés, chiffrés et de jetons en verre bleu, semblaient écouter les plaisanteries du vieux notaire, qui ne tirait pas un numéro sans faire une remarque. Mais tous pensaient aux millions de Monsieur Grandet. Le vieux tonnelier contemplait vaniteusement les plumes roses, la toilette fraîche de Madame des Grassins, la tête martiale du banquier, celle d'Adolphe, le président, l'abbé, le notaire, et se disait intérieurement « Ils sont là pour mes écus. Ils viennent s'ennuyer ici pour ma fille. Et ma fille ne sera ni pour les uns ni pour les autres, et tous ces gens-là me servent de harpon pour pêcher. » Cette gaieté de famille, dans ce vieux salon gris, mal éclairé par deux chandelles, ces rires, accompagnés par le bruit du rouet de la grande Nanon, et qui n'étaient sincères que sur les lèvres de Génie ou de sa mère, cette petitesse jointe à de si grands intérêts, cette jeune fille qui, semblable à ces oiseaux victimes du haut prix auquel on les met et qu'ils ignorent, se trouvait traquée, serrée par des preuves d'amitié dont elle était la dupe. Tout contribuait à rendre cette scène tristement comique. N'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les temps et de tous les lieux, mais ramenée à sa plus simple expression? La figure de Grandet, exploitant le faux attachement des deux familles, en tirant d'énormes profits, dominait ce drame et l'éclairait. N'était-ce pas le seul dieu moderne auquel on ait foi, l'argent dans toute sa puissance, exprimé par une seule physionomie? Les doux sentiments de la vie n'occupaient là qu'une place secondaire. Ils animaient trois cœurs purs, ceux de Nanon, de Génie et sa mère. Encore, combien d'ignorance dans leur naïveté. Eugénie et sa mère ne savaient rien de la fortune de Grandet. Elles n'estimaient les choses de la vie qu'à la lueur de leurs pâles idées, et ne prisaient ni ne méprisaient l'argent, accoutumées qu'elles étaient à s'en passer. Leurs sentiments, froissés à leur insu, mais vivaces, le secret de leur existence, en faisaient des exceptions curieuses dans cette réunion de gens dont la vie était purement matérielle. Affreuse condition de l'homme. Il n'y a pas un de ces bonheurs qui ne vienne d'une ignorance quelconque. Au moment où Madame Grandet gagnait un lot de 16 sous, le plus considérable qui eût jamais été ponté dans cette salle, et que la grande Nanon riait d'aise en voyant Madame empochant cette riche somme, un coup de marteau retentit à la porte de la maison et y fit un si grand tapage que les femmes sautèrent sur leurs chaises. « Ce n'est pas un homme de Saumur qui frappe ainsi, » dit le notaire. « Peut-on cogner comme ça ? » dit Nanon. « Veulent-ils casser notre porte ?»« Quel diable est-ce ? » s'écria Grandet. Nanon prit une des deux chandelles et alla ouvrir, accompagnée de Grandet. « Grandet ! Grandet ! » s'écria sa femme, qui, poussée par un vague sentiment de peur, s'élança vers la porte de la salle. Tous les joueurs se regardèrent. « Si nous y allions, » dit M. Desgrassins, « ce coup de marteau me paraît malveillant. » À peine fut-il permis à M. Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme, accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre loto, laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs, agiles, reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. En effet, » dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de deux doigts, et qui ressemblait à un vaisseau hollandais, « il est 9 heures. Peste, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. »« Et ce monsieur est-il jeune ?» demanda l'abbé Cruchot. « Oui, » répondit M. Desgrassins, « il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. »« Nanon ne revient pas, » dit Eugénie. « Ce ne peut être qu'un de vos parents, » dit le président. « Faisons les mises !» s'écria doucement Madame Grandet. À sa voix, j'ai vu que M. Grandet était contrarié. Peut-être ne serait-il pas content de s'apercevoir que nous parlons de ses affaires. « Mademoiselle, » dit Adolphe à sa voisine, « ce sera sans doute votre cousin Grandet, un bien joli jeune homme que j'ai vu au bal de M. Denus Saint-Jean. » Adolphe ne continua pas. Sa mère lui marcha sur le pied, puis en lui demandant à haute voix 2 sous pour sa mise. « Veux-tu te taire, grand nigaud ?» lui dit-elle à l'oreille. En ce moment, Grandet rentra, sans la grande Nanon, dont le pas et celui du facteur retentirent dans les escaliers. Il était suivi du voyageur qui, depuis quelques instants, excitait tant de curiosité et préoccupait si vivement les imaginations que son arrivée en ce logis et sa chute au milieu de ce monde peut être comparée à celle d'un colimaçon dans une ruche ou à l'introduction d'un paon dans quelque obscure basse-cour de village. « Asseyez-vous auprès du feu !» lui dit Grandet. Avant de s'asseoir, le jeune étranger salua très gracieusement l'assemblée. Les hommes se levèrent pour répondre par une inclination polie et les femmes firent une révérence cérémonieuse. « Vous avez sans doute froid, monsieur, » dit Madame Grandet. « Vous arrivez peut-être de... »« Voilà bien les femmes !» dit le vieux vigneron en quittant la lecture d'une lettre qu'il tenait à la main. « Laissez donc monsieur se reposer. »« Mais, mon père, monsieur a peut-être besoin de quelque chose ?» dit Eugénie. « Il a une langue !» répondit sévèrement le vigneron. L'inconnu fut seul surpris de cette scène. Les autres personnes étaient faites aux façons despotiques du bonhomme. Néanmoins, quand ces deux demandes et ces deux réponses furent échangées, l'inconnu se leva, présenta le dos au feu, leva l'un de ses pieds pour chauffer la semelle de ses bottes et dit à Eugénie « Ma cousine, Je vous remercie, j'ai dîné à Tours. Et, ajouta-t-il en regardant Grandet, je n'ai besoin de rien, je ne suis même point fatigué. Monsieur vient de la capitale ? Demanda madame des Grassins. Monsieur Charles, ainsi se nommait le fils de monsieur Grandet de Paris, en s'entendant interpeller, prit un petit lorgnon suspendu par une chaîne à son col, l'appliqua sur son œil droit pour examiner et ce qu'il y avait sur la table et les personnes qui étaient assises. Lorgna fort imperceptiblement madame des Grassins et lui dit après avoir tout vu. « Oui, madame. Vous jouez au loto, ma tante ? » ajouta-t-il. « Je vous en prie, continuez votre jeu. Il est trop amusant pour le quitter. » « J'étais sûre que c'était le cousin, » pensait madame des Grassins en lui jetant de petites œillades. « 47 !» cria le vieil abbé. « Marquez donc, madame des Grassins, n'est-ce pas votre numéro ?» Monsieur des Grassins mit un jeton sur le carton de sa femme, qui, saisi par de tristes pressentiments, observa tour à tour le cousin de Paris et Eugénie, sans songer au loto. De temps en temps, la jeune héritière lança de furtifs regards à son cousin. Et la femme du banquier put facilement y découvrir un crescendo d'étonnement ou de curiosité.